Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, bienvenue à bord du cargo de Radio Caroline, avec à nos côtés, les mains accrochées au bastingage, une comédienne, mais aussi une femme proprement exceptionnelle, Delphine Seyrig, qui, dès la fin des années 60, sera l'une des premières dans sa profession, en France à tout le moins, à incarner le féminisme, à en être l'une des figures de proue inattendues et implacable, exprimé tantôt avec la politesse de la courtoisie, tantôt dans la colère ô combien légitime, et toujours avec fougue, comme on l'entendra dans une poignée d'archives vivifiantes et inspirantes. Porte-parole inattendue, disais-je, car jusque-là, son image, telle que projetée à l'écran, était tout autre. Delphine Seyrig, c'est la quintessence de la féminité en tant que construction ou mirage, ai-je lu ? C'est en tout cas comme cela que l'on filmait de nombreux grands réalisateurs, à commencer par Alain René qui, en 1961, l'a révélé dans L'année dernière à Marienbad.
Je vous répète que c'est impossible, je n'ai même jamais été à Frédéricksbad.
Il insiste, elle s'insurge.
Je ne sais pas de quelle chambre vous parlez, je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre.
Je ne voulais pas vous souvenir, parce que vous avez peur.
Si féminine encore, telle que vue par Joseph Losey dans le formidable The Accident en 1967.
Alors c'est vrai, tu as trois enfants ? C'est incroyable.
Par Jacques Demy, également, à sa façon, dans Peau d'âne en 1970.
Vous, à cette heure, vous savez que j'ai horreur qu'on me surprenne. Je ne suis pas prêt.
Excusez-moi, ma reine, mais ce que j'ai à vous dire est extrêmement important.
Oh. Allons, ne pleurez pas, mon enfant. Les larmes abîment et creusent le visage.
Mais c'est horrible, vraiment.
Calmez-vous, asseyez-vous.
Oh, je...
Oh, ne m'expliquez rien, je suis au courant de tout. Donnez-moi un instant que j'arrange ma toilette et séchez vos larmes.
François Truffaut la verra lui aussi très chic dans Baiser volé, mais tout de même plus incarné, plus tendre, en 1968.
Et puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Ce qui est tout le contraire. Par exemple, ce matin, avant de venir ici, je me suis maquillée. Je me suis mise un poudre sur le nez. Je me suis fait les yeux. Et en traversant Paris, je me suis aperçue que toutes les femmes faisaient la même chose. Pour le plaisir ou par politesse. Vous dites que je suis exceptionnelle. Ah oui, c'est vrai, je suis exceptionnelle. Toutes les femmes sont exceptionnelles, chacune à leur tour.
Mais même quand Buñuel en fait une prostituée...
T'as de l'argent.
On a même de l'or.
On peut voir.
Une Belge, en revanche, la sortira de cette image. C'est bien sûr Chantal Akerman et c'est bien sûr son film Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080, Bruxelles. On y vient. Cette image de mondaine qui colle à la comédienne Delphine Seyrig, une réalisatrice belge, je le disais, Chantal Akerman, en prendra le contre-pied radical en 1975 lorsqu'elle tourne Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080, Bruxelles, film dont on reparle beaucoup ces temps-ci, de même, bien évidemment, que sa réalisatrice. Ce film, c'est trois jours dans la vie d'une femme d'intérieur bruxelloise qui, veuve, veille seule sur son fils de 16 ans dans un appartement aux dimensions modestes. Chaque journée est réglée de façon métronomique. Chaque journée compte une série de tâches à accomplir dans l'ordre et à heure fixe qui occupe toute l'étendue du temps du lever au coucher. Un créneau l'après-midi étant réservé à la prostitution domestique car en l'absence de mari, pas d'autre choix que de déléguer à d'autres hommes, dits clients, cette fonction minimale de subvenir aux finances du foyer. Chantal Akerman n'a que 25 ans lorsqu'elle réalise ce long métrage qui, Vous le savez, le 1er décembre 2022, décrochait la première place du classement des 100 meilleurs films de l'histoire, concoctés par la vénérable revue britannique de cinéma Sight and Sound, et ce devant Alfred Hitchcock et Orson Welles dépassés. Mais un film qui, à sa sortie en janvier 1976, faisait déjà dire au journal Le Monde, sous le titre « Comment dire chef-d'œuvre au féminin », on ne saurait dissocier dans cette réussite exceptionnelle la part de l'auteur, Chantal Akerman, celle de Delphine Seyrig, qui joue Jeanne Dillman, et celle de notre compatriote Babette Mangold, qui tient la caméra. Certainement le premier chef-d'œuvre au féminin de l'histoire du cinéma. C'était donc en janvier 76, à la sortie de ce film, un long métrage sur le tournage duquel s'était rendu la journaliste de la RTBF Françoise Wolff en 1975, interrogeant Delphine Seyrig et Chantal Akerman.
Les femmes veulent redécouvrir et vivre leur féminité à partir d'elles-mêmes, de leurs désirs, de leurs aspirations. Est-ce possible ? L'égalité étant plus ou moins acquise, sinon dans les faits, du moins dans les esprits, les femmes parviennent-elles vraiment à vivre cette féminité comme elles l'entendent ? Nous avons continué cette quête de la féminité en allant observer pendant quelques jours le tournage d'un film belge. Car l'idée émanait de deux jeunes femmes, Chantal et Marilyn. Le sujet, quelques jours d'une femme, et la réalisation était assurée en majeure partie par des femmes. Delphine Seyrig y participe, elle est Jeanne, l'héroïne du film.
Disons que ça m'intéresse en effet particulièrement de travailler avec des femmes, parce que ça ne m'est jamais arrivé avant, et que quand ce ne serait que la nouveauté de la chose, c'est déjà intéressant. Au départ.
Et ici, par rapport au personnage du film, par rapport à cette femme, Jeanne,
oui.
Que pensez-vous que cette histoire puisse apporter ?
Voilà, moi je crois que, si vous voulez, dans la mesure où c'est écrit par une femme, je crois qu'on verra peut-être un personnage qu'on a peut-être déjà vu au cinéma, mais jamais décrit de cette façon-là. Jusqu'à présent, on m'a toujours proposé des femmes sophistiquées, des fofolles, ou des femmes du monde, ou des femmes très distinguées. Bon. Et il se trouve que pour la première fois que je joue des personnages pas mondains, il se trouve que ce sont deux femmes qui me les ont proposées. Pour moi, ça a un sens aussi. Et je pense que à partir du moment où beaucoup de femmes font du cinéma, on verra des personnages féminins qu'on n'a pas vus jusqu'ici, ou du moins qu'on a vus brièvement en passant. C'était des rôles secondaires. Maintenant, ces rôles secondaires vont devenir les rôles principaux, vont devenir le centre d'intérêt. Et ça, je crois que ce sera les femmes qui feront.
Par exemple, par rapport à la création d'un film, à l'écriture d'un scénario.
Oui.
Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez dire. Ce sont des histoires de femmes, le précédent et celui-ci.
Oui, presque toujours.
Ce sont des histoires que vous ressentez par ce que vous avez vu ou bien que vous avez vécu qui correspondent à une intériorité qu'il faudrait
dire. Moi, je pourrais difficilement parler pour un homme, je crois. Les hommes ont toujours parlé pour les femmes dans les films, mais moi, je ne me sens pas capable de parler pour un homme. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Un homme.
Et une femme ?
Une femme, bon, je peux voir à partir de moi. Et il y a tout de même quelque chose de commun, même s'il y a des tas de différences.
Pourquoi ce souci de vouloir raconter justement un peu le quotidien de la femme ?
On a déjà assez raconté des histoires folles d'amour qui n'arrivent presque jamais, ou le cinéma a montré une image de la femme vue par les hommes qui est complètement fausse. Et même quand des gens essayent de montrer le quotidien d'une femme, ils ne montrent qu'un quotidien fantasmé, moi aussi probablement, hein, mais je ne sais pas.
Et qu'est-ce que vous essayeriez de faire justement, montrant le quotidien des femmes? Ça arrivait à quoi?
Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis une théoricienne. Hein. Je me dis, je ne vais pas essayer de montrer le quotidien des femmes pour telle et telle raison. Je dis, je vais montrer le quotidien des femmes, c'est tout.
Toujours dans ce reportage qui date d'avril 1974, Chantal Akerman s'exprime sur ce qui, dans la façon de travailler, devrait idéalement distinguer une femme d'un homme.
Les femmes sont rentrées par le travail dans le monde des hommes, elles sont rentrées en compétition avec les hommes, elles vont finir par leur ressembler si tout va mal. Et bon, ça me déplaît.
Alors justement, ce film qui est un rassemblement de toutes des femmes qui font une tâche d'homme jusqu'à présent, réaliser un film c'était surtout une tâche d'homme, est-ce qu'on peut pas dire que toutes les femmes qui travaillent ici sont presque des hommes, alors vont devenir des hommes?
Je ne crois pas, bon... Je veux dire, j'avais espéré pouvoir faire le film autrement. Mais ce fait qu'on est dans une structure, il y a de l'argent, le monde des hommes, il y a une production, la loi, hein, et il se fait que par rapport à tout ça, on prend un comportement classique et qu'on n'a pas pu changer les structures, que c'était plus fort que nous.
Qu'est-ce que ça veut dire un comportement classique ?
C'est-à-dire comme les hommes au travail, presque. Dire, avec tout ce que ça comporte et en plus tous les ennuis des femmes. J'ai remarqué que quand je fais preuve d'autorité, les choses vont plus vite. Ça me gêne très fort parce que c'était pas du tout comme ça que j'avais envie que ça se passe. Et chaque fois que je m'entends crier, par exemple, ça m'effraie. Et puis, j'ai tout de suite envie de m'excuser après, mais bon, si je vais chaque fois crier, chaque fois m'excuser, ça ne va pas non plus. Et par exemple, quand je discute par exemple avec Delphine et que je lui dis ce dont j'ai envie, bon, qu'on ait la langue dans l'autre pièce, qu'on discute du rôle, ça ne me gêne pas. Mais chaque fois que je dois corriger des choses, c'est vraiment un effort. Je dois vraiment transgresser quelque chose en moi.
Est-ce que là, on a l'impression d'avoir, vous avez l'impression d'avoir plus de difficultés parce que vous êtes une femme ou pas du tout?
Ben oui. Oui. Bon, je veux dire, de toute façon, c'est moi qui ai des difficultés. Alors, faire la part des choses entre le fait que je suis une femme et le fait que je suis moi, je n'y arrive pas vraiment. Mais j'ai l'impression, enfin, théoriquement, que les hommes ont plus l'habitude de commander aux femmes. Et que, par exemple, quand les femmes essayent d'obtenir des choses, en général, c'est par la séduction. Et là, ça ne peut pas être le cas. Puisque c'est entre femmes, si on veut. Et bon, il y a forcément des moments où la séduction joue, mais j'essaye d'éliminer ça.
Interrogée par Françoise Wolff, toujours, la comédienne évoque les moyens par lesquels fuir les schémas auxquels la femme est assignée dès l'enfance.
Il y a un moment ou un autre, on se met plus ou moins consciemment en colère contre ça, où on devient... ça peut prendre des formes différentes. On peut devenir archi-féminine parce qu'on sait que c'est la seule manière de s'en tirer. C'est peut-être ce qui m'est arrivé à moi, de jouer la féminité parce que je savais que c'était la seule carte avec laquelle je pouvais m'en sortir dans la société telle qu'elle est. Bon, je pense que c'est quand même une forme de désir de survie. On veut s'en tirer. Et on essaie de s'en tirer de toutes les manières possibles. Maintenant, il va peut-être y avoir des manières plus intéressantes de s'en tirer que de jouer la carte de la féminité. Et je crois que c'est ça qui est en train de se passer maintenant. Je sais pas si maintenant j'avais 13 ans, si c'est la féminité que je choisirais comme voie d'ouverture, comme possibilité dans la vie. Il se trouve que à l'époque où moi j'avais 14 ans, ça me semblait être la seule voie. C'est d'être, de me maquiller, de devenir une dame, d'être aimée, adulée, adorée. Et pour moi, il y avait je n'avais de raison d'être que si j'étais acceptée, aimée par quelqu'un de l'autre sexe, puisque c'était l'autre sexe qui comptait, c'est-à-dire un homme. Je crois que maintenant, peut-être, les femmes vont commencer à ne pas se baser sur le jugement des hommes, sur elles. Et à ce moment-là, la féminité, le maquillage, tout ça va changer. Si elles pensent qu'elles ont une valeur en elles-mêmes, elles n'éprouveront plus le besoin d'épouser les critères des hommes, peut-être.
Radio Caroline avec Olivier Monsens.
En 1977, Delphine Seyrig poursuivra de façon plus concrète encore la déconstruction de cette image de féminité éthérée. Alors militante auprès des Insoumuses, un collectif œuvrant pour la réalisation de films féministes, elle prend la caméra et entame la réalisation d'un documentaire titré « Sois belle et tais-toi » dans lequel elle interroge 24 de ses collègues, lesquelles dressent un état des lieux désastreux de l'industrie du cinéma, la décrivant comme une affaire d'homme où, pour une femme, il est ardu de résister et si difficile de durer. Parmi elles, Jane Fonda.
Jack Warner, le chef de studio, voulait que je mette des faux seins. Bah, il n'aimait pas des femmes avec des petits seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commercial.
Delphine Seyrig fera aussi parler Maria Schneider, dont on connaîtra plus tard l'expérience dramatique vécue lors du tournage de la scène du viol dans Le Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci avec Marlon Brando.
Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. La presse, c'est partagé la presse, mais c'est quand même des hommes. Les agents, c'est des hommes qui dirigent, qui te donne un script, qui te conseille, qui t'oriente, sont des hommes. Et j'ai l'impression qu'ils ont des sujets pour les hommes.
Cinq ans plus tôt, en 1972 déjà, interrogée sur le bonheur, dans une émission de la télévision française masculin-féminin, Delphine Seyrig laisse éclater sa colère de femme et de féministe.
La question de bonheur, alors parlons-en, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit. Quand un homme se marie, il épouse une femme de ménage gratis. Le bonheur, c'est l'indépendance, d'abord, c'est la liberté et l'indépendance. Par là, j'entends que, puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépende pas de quelqu'un d'autre, ne dépende pas d'un homme, par exemple. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre. Je suis le type de l'esclave. Je sais exactement ce que c'est que l'image que les hommes veulent avoir des femmes. Moi, à partir du moment où je m'en rends compte et où je le dis, je deviens quelqu'un de très antipathique pour les hommes. Il y a une culture féminine et une culture masculine. Il est évident, par exemple, on se posait la question, pourquoi est-ce que les femmes ne sont jamais de grands artistes? Pourquoi est-ce que depuis la nuit des temps, on parle de Michel-Ange, de tout ce qui est art dans notre civilisation est le fait des hommes et pas des femmes. Alors, les femmes peuvent et pensent qu'elles sont moins douées, moins intelligentes, que le génie est une chose qui ne leur appartient pas. On peut décider que les femmes sont inférieures. C'est une décision qu'on peut prendre, c'est une décision raciste. La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes. Elles veulent
faire... Il n'y a pas un peu de racisme là-dedans.
Où est le racisme ? Où est le racisme ? Qui a ségrégué les femmes ? Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas flâner dans la rue à minuit ? Pourquoi est-ce que les hommes peuvent flâner à toutes les heures de la nuit? Qui commet les viols? Est-ce que c'est les femmes qui violent les hommes? Qui fait la ségrégation? Qui tient tous les journaux politiques? Je parle pas des journaux féminins qui vous apprennent la mode et la couture, mais je parle des journaux politiques qui sont entre les mains de qui, d'une façon générale? Des hommes. Si une femme n'est pas mariée, elle est fichue puisqu'elle gagne pas d'argent, ou pratiquement pas. Elle n'a pas d'avenir. Il n'y a aucun poste, il n'y a aucun avenir pour elle. Elle est forcément dépendante du mariage. Le mariage est une forme de, pour prendre un mot énorme, mais une forme de prostitution. La femme se donne physiquement, gratuitement, et elle fait le ménage gratuitement pour un homme, moyennant quoi elle est logée, nourrie. Mais il faut qu'elle se lève la nuit pour torcher les gosses et pour les soigner. Quand elle a un travail, et que son mari a un travail aussi, et que les enfants sont malades, qu'est-ce qui reste à la maison? C'est la femme. Parce que finalement sa contribution financière au ménage est accessoire. C'est quand même l'homme qui, lui, continue à travailler. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Elles sont conditionnées à être toujours au service de l'extérieur, quitte à se maquiller d'ailleurs et à tout faire pour les autres, pas pour elles-mêmes, mais pour être acceptées par les autres. J'ai les mains qui tremblent, je ne suis pas à mon aise. parce que j'ai trop à dire, il y a un trop-plein. Beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles. C'est justement, ça prouve que leur vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Et je crois que c'est très important à dire, parce que je le ressens moi-même là en ce moment, et que je trouve que, étant une femme, je voudrais qu'on sache que j'en suis consciente, et que je sais que beaucoup de femmes partagent ça avec moi.
De là vient sûrement cette agressivité qu'a souvent le mouvement de libération des femmes et qui n'est pas sympathique. Et ça vient peut-être de là.
Je ne sais pas si le calme des hommes est tellement sympathique.
Rappelons qu'à l'époque, Delphine Seyrig vient de signer le manifeste des 343 pour la dépénalisation et la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse et qu'elle a d'ailleurs prêté son appartement pour plusieurs avortements clandestins. Remontons encore le temps pour retrouver Delphine Seyrig en 1970, dans un programme radio de la RTBF Champs Libres, où la comédienne, mais aussi l'autrice Marguerite Duras, entre autres, sont interrogées sur la vie quotidienne, la leur, mais aussi celle que les femmes anonymes vivent ou doivent subir.
Pour moi, elle est très particulière, dans ce sens que j'ai choisi ce que je voulais faire, que je fais ce que j'avais envie de faire, que non seulement j'ai choisi de faire quelque chose, mais il se trouve que au bout d'un certain nombre d'années, cette chose a marché pour moi et que donc je fais exactement ce que je veux, presque exactement ce que je veux. Et donc la vie quotidienne, en ce qui me concerne, n'est pas du tout la vie quotidienne que peut avoir quelqu'un qui est obligé, une femme qui est obligée de vivre une vie qu'on appelle une vie de femme. Par là, j'entends forcément élever des enfants et travailler en plus pour la plupart des femmes, s'occuper entièrement de ses enfants, leur faire à manger, les habiller, les nourrir, les coucher, les lever, les conduire à l'école, enfin tout ce que ça implique. Ça, je ne l'ai pas. J'ai un enfant que j'ai élevé jusqu'à son adolescence. Maintenant, il commence à être un adolescent. Je l'ai élevé avec l'aide d'autres femmes que j'engageais, des jeunes femmes qui sortaient de leur famille, qui cherchaient du travail. Et là, j'ai eu l'occasion de voir ce que ça pouvait être que la vie d'une autre femme que moi. Et donc, je dois beaucoup aux autres femmes pour avoir pu accomplir mon travail à moi, à savoir d'être comédienne, de pouvoir jouer tous les soirs. Il fallait donc que j'ai quelqu'un dans la maison pour s'occuper de mon enfant, pour le coucher, pour lui faire à dîner, pour quand il était à des âges où il fallait qu'il ait quelqu'un. Sans ces autres femmes, je n'aurais pas pu faire. J'aurais été obligée de refuser des choses qu'on me proposait de faire. Alors, ma vie quotidienne, elle est privilégiée. Elle passe trop vite, elle est bousculée, parce que les gens privilégiés dans le monde où nous vivons ont trop à faire. Et les gens qui ne sont pas privilégiés ou ont trop à faire pour gagner de quoi vivre, pour gagner juste à peine de quoi vivre, ou ils n'ont rien à faire, à savoir qu'ils chôment. Il y a des mouvements féminins actuellement qui se forment, qui naissent. C'est vraiment une naissance, c'est encore un embryon de choses, c'est à peine né, ces mouvements pour la libération des femmes. Mais je me pose la question de savoir quelle émancipation est plus révolutionnaire que celle de la femme, parce que quel mouvement est plus difficile à créer que celui de la libération des femmes. Pour moi, ça compte énormément, parce que je suis très consciente de cette non-liberté des femmes.
Un mouvement pour la libération des femmes qui vient à peine de se créer en cette année 1970 sous le nom de MLF. Marguerite Duras.
Chaque femme, durant sa vie, subit l'agression de l'homme dans la rue publique, dans les cinémas, dans les cafés, pendant 20 ou 30 ans. Quand j'étais jeune, on me demandait quand la femme sera-t-elle libérée ? Et je répondais quand elle pourra prendre un verre dans un café, à un bar, sans être agressée. C'est une réponse un peu enfantine, si vous voulez. Mais je la soutiens encore, enfin, je veux dire que ça a l'air de rien, mais c'est absolument essentiel. Les femmes à New York sont passées à l'agression des hommes, et ça donne un résultat tout à fait positif. Les hommes ont peur. Comme l'homme se considère la femme comme plus faible que lui, physiquement, il la traite mal. Il faudrait que l'homme prenne conscience de ça, que dans ce mauvais traitement de la femme par lui, ce traitement la plupart du temps inconscient, si vous voulez, il dispose du critère de la force. et même quelquefois de la force brutale. Et par ailleurs, cette force brutale, il essaye de la combattre par tous les moyens. Il est donc dans une contradiction essentielle.
Et la force de la femme, où est-elle ?
Sans la femme, tout s'écroule.
En 1971, 4 ans avant qu'elle ne tourne avec Chantal Akerman, Delphine Seyrig est déjà l'héroïne d'un film belge, Les Lèvres Rouges, de Harry Kummel, où elle incarne une comtesse vampire et lesbienne. Nous sommes à Ostende, en plein hiver, dans un hôtel, alors que se produisent crimes sanguinolents et étreintes saphiques aussi mortelles que sensuelles. Bijoux fantastico-érotiques longtemps restés confidentiels avant de devenir un incontournable du cinéma cuir, lige sous la plume d'un critique.
Stéphane, dites-moi que vous êtes heureux d'être là, je veux que vous le soyez.
S'il ne tenait qu'à moi, je ne serais pas ici avec vous en ce moment, vous le savez.
Oh, mais nous ne pouvons pas nous passer de vous.
C'est sûrement ce que pensera aussi la police.
Mais vous ne risquez rien avec moi, rassurez-vous.
Moi, je n'ai tué personne.
Encore.
C'est difficile à oublier.
Oh, vous oublierez. Au bout de quelque temps, ce ne sera plus que le souvenir d'un mauvais rêve et bientôt simplement le souvenir d'un souvenir de plus en plus vague. J'ai déjà vu tant de nuits tomber dans l'abîme du temps.
Des nuits telles que la nuit passée ? Ou encore pire ?
Qui pensez-vous donc que je sois ? Parce qu'il se trouve que je m'appelle Bathory. Une goule, un vampire. Ah non, mon cher. Je ne suis qu'un personnage démodé, anachronique, rien de plus. Vous savez la belle étrangère un peu lasse, un peu mystérieuse, qui traîne son spleen d'une ville à une autre, il y a 15 jours à Nice, Monte-Carlo, avant-hier, Bruges.
Ah, parce qu'il y a 2 jours, vous étiez à Bruges.
Oui, bien sûr.
En 1986, année, se dit en passant, des retrouvailles entre Delphine Seyrig et Chantal Akerman pour le film Golden 80s, Delphine Seyrig reviendra avec Céline Sasson sur cet étonnant constat.
Il faut vous dire que depuis 10 ans, j'ai tourné principalement avec des femmes. Ce n'est pas mon choix, c'est la réalité, encore une fois. Dépourvu des conventions. Il se trouve que depuis 10 ans, ce sont surtout des femmes qui m'ont demandé de tourner. Les réalisateurs ne me demandent pas souvent de tourner avec eux. Alors les raisons, ça, je vous laisse les chercher. Moi, je ne les connais pas moi-même. J'essaye de deviner de temps en temps, mais je ne trouve pas. Je pense que mon âge fait que on s'intéresse moins aux actrices à partir d'un certain moment. Il y a moins de rôles pour elles. Je pense que ça, c'est un facteur. Mais ça n'a pas l'air de décourager les femmes, Dieu merci, et pourvu que ça dure. Je ne sais pas. Il y a sûrement d'autres raisons. Je pense que le fait que... Instinctivement, j'ai toujours... Finalement, quand j'ai joué, que ce soit au théâtre ou au cinéma, j'ai toujours essayé de communiquer avec les femmes dans la salle, quand c'est au théâtre. Je me rends compte a posteriori, c'est pas une chose que je décide à l'avance. Je me rends compte que je les prends à témoin et je les prends comme complices. C'est une chose instinctive, c'est comme ça. Et peut-être que ça se sent, je ne sais pas. Je cherche peut-être aussi mon engagement dans le mouvement des femmes. Mais il me semble que ça n'est pas... Que je n'ai jamais... je ne sais pas, peut-être que ça fait peur.
Mmh. Voilà. Oui, peut-être. Oui. C'est ce que j'allais vous proposer comme explication. Oui. Je crois que vous leur faites un peu peur.
Peut-être, mais je n'ai pas... il me semble que je ne fais pas très peur, enfin.
Vous êtes très loin de la femme objet, très loin donc aussi de la comédienne objet.
C'est vrai que j'aime participer, que je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas quand je tourne. J'aime, l'ensemble du film m'intéresse. Et je souffre si, par exemple, je vois que... Mais ça, tous les acteurs sont comme moi. Si on voit que le scénario qu'on a aimé n'est pas ce qui est en train de se faire au moment du tournage, on est un peu triste. Mais ça, tous les acteurs ont ces problèmes-là. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils pensent que je suis plus terrible que je ne suis. Je crois qu'en général, je m'entends bien avec les gens avec qui je travaille. Alors, je ne sais pas.
Et puis, le 15 octobre 1990, sur les ondes.
Le journal de 19h. Présenté par François Reichmans, bonsoir.
Bonsoir. Décès dans le monde du spectacle à Paris. On vient d'apprendre que l'actrice française Delphine Seyrig est décédée hier dans un hôpital parisien à l'âge de 58 ans, Claude Deras.
Suivant la formule consacrée, Delphine Seyrig est morte d'une longue et cruelle maladie. C'était une actrice qui personnifiait à la fois le charme, la sensibilité et l'intelligence. Elle avait eu toutes les chances dans sa carrière. Et d'abord la chance incomparable de personnifier l'héroïne de l'année dernière à Marianne Bad d'Alain René. Elle avait joué également avec Truffaut dans Baiser volé, avec Bounouel dans Le charme discret de la bourgeoisie et avec Jacques Demy dans Peau d'âne où sa présence poétique fascinait. Au théâtre, elle avait associé son nom à des auteurs comme Tchekhov, Tourguenieff, Pirandello et Giraudoux, les auteurs les plus poétiques au monde. C'était aussi une femme qui s'était fort engagée dans la politique. Exemple, dans les années 80, elle avait été une militante féministe acharnée et elle était devenue l'amie personnelle de Simone de Beauvoir. Sa maladie l'avait contrainte à déserter les théâtres parisiens ces dernières années. Elle avait un dernier projet qu'elle n'a pas pu réaliser, une pièce qu'elle devait créer au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Elle aura donc manqué son dernier rendez-vous avec le public, mais celui-ci n'oubliera pas de sitôt cette voix si personnelle qu'elle constituait une grande partie de son charme.
Notre voyage aux côtés de Delphine Seyrig se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager, à l'étoiler. Bonne nuit ou belle journée. Radio Caroline.
We're on the air. Classic 21. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.